Théologie en liberté. Au micro, Joël Baumann et
Michel Bertrand.
Bonjour Michel,
bonjour
chers auditeurs. Nous sommes à notre quatrième émission sur la relation entre le religieux et le politique. Alors, la dernière fois, nous avons exprimé ce que pouvait être l'apport du religieux dans l'espace public. Nous avons commencé par la vigilance prophétique. Le religieux, particulièrement la foi chrétienne, nous permet d'être des lanceurs d'alerte dans la société. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir le faire, mais nous pouvons nous mettre avec tous les lanceurs d'alerte dans la société qui s'expriment et qui s'engagent. Évidemment, nous avons tout de suite pensé à l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui est une association œcuménique née en 1974.
Qui va avoir 50 ans.
Et nous préparons cet anniversaire. Et qui a élargi ses champs d'action depuis 82 à la lutte contre la peine de mort, partout où elle se pratique dans le monde. Et depuis les années 90, à la protection des victimes, à la défense des droits d'asile, des personnes en droit d'asile. Donc les membres de la CAT écrivent chaque mois, s'informent. Et essaye de faire passer cette information, en particulier donc dans les églises, puisque la CAT est une émanation un petit peu d'Amnesty International, mais avec l'idée de vraiment engager les chrétiens à être actifs dans le domaine des droits de l'homme.
Ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde l'évolution de la CAT, et sans doute n'est-elle pas terminée, je suis de ceux qui pensent que son champ va continuer à s'élargir, parce qu'on prend de plus en plus conscience aujourd'hui, pour faire une formule, qu'il y a de la torture avant la torture. Mmh. Et qu'il faut être vigilant sur ce qui se passe en amont de la torture. Bien sûr, quand la torture est là, il faut la combattre le plus vigoureusement possible. Mais si on peut éviter qu'elle advienne, c'est en étant vigilant en amont. Je reprends les mots de Marie-Laure Durand, être vigilant sur cet émiettement qui va jusqu'à la destruction. Mais avant la destruction totale, il y a l'émiettement. Et si on vise à ne pas émietter notre frère, alors effectivement, on peut lutter de manière déterminée contre la torture. Ce qui veut dire d'ailleurs, et c'est d'ailleurs un des chantiers de la CAT en ce moment, qu'il nous faut être déjà vigilants sur les droits humains, le respect des droits humains au sein de nos communautés chrétiennes. Parce que c'est bien beau, comme ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, de dénoncer les violations des droits humains par des gouvernants, des États, etc. Mais il est important de veiller à ce qu'il n'y ait pas cet émiettement, j'allais dire, dans nos propres communautés. Et donc résister à toutes les formes de harcèlement, de violation des droits de la personne, de phénomènes d'emprise, qui sont ce que j'appelais déjà de la torture avant la torture. Et c'est d'ailleurs à cette vigilance prophétique qu'un théologien italien, Paolo Rica, appelait la CAT lors d'un colloque déjà en 2002. Je crois que c'est là une façon spécifique pour les chrétiens d'intervenir dans le champ politique. Non pas entrer dans des débats idéologiques partisans ou des rapports de force avec les pouvoirs, mais se laisser toucher jusqu'à l'indignation par la souffrance d'un être singulier. Être comme Jésus, ému de compassion, dans le grec, c'est littéralement pris aux entrailles et résister aux forces du mal chaque fois qu'un être humain, toujours unique devant Dieu, est déshumanisé par la violence. Mais le prophète n'est pas seulement celui qui parle, c'est aussi celui qui agit au service du concret du prochain.
La prophétie est une action et un combat, un service concret du prochain. la mise en action de la parole du Christ, aime ton prochain comme toi-même.
Ouais. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que les prophètes du Premier Testament accompagnaient souvent leurs paroles d'actes symboliques, hein, pour montrer que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole en l'air, si je puis dire, mais c'est une parole qui s'incarne, qui prend chair dans la profanité du monde. D'ailleurs, cette cohérence entre le dire et le faire est ressentie comme un gage de crédibilité. On connaît le reproche tant de fois entendu à propos des croyants et des religions, ils disent et ne font pas. Donc, l'intervention des religions se situe donc aussi dans le champ diaconal et caritatif. Alors, cela concerne tous ces lieux de blessures, de fractures de la société, notamment ce que l'État et ses services publics ont oublié ou qu'ils ont déserté. Les religions, ensemble ou séparément, peuvent y développer l'accueil, le soutien, l'entraide, la solidarité, pour faire face souvent dans l'urgence et de manière provisoire aux nouvelles formes de pauvreté, d'injustice, de marginalisation, d'exclusion. Tout ce dont les pouvoirs publics ne s'occupent pas, c'est d'abord ça notre priorité. Travailler à recréer du lien, du sens, de la solidarité, au cœur même de la cité, notamment auprès des plus fragilisés.
Oui, encore une fois, les chrétiens et les croyants n'ont pas le monopole de tout cela.
Bien entendu.
Hein, mais alors, nous avons parlé de l'ACAT. C'est un exemple de visibilité et d'engagement des chrétiens dans la société. Il y en a d'autres. Il y a la CIMAD. Il y a la fondation John Bost en Dordogne, qui a été un organisme pionnier dans l'accueil des personnes handicapées. On pense aussi à la création des différents hôpitaux et diaconats protestants, catholiques, et même des premières colonies de vacances, du scoutisme, ou des premières maisons familiales de vacances pour familles démunies, comme à Sète, le Lazaret.
On peut penser au Secours catholique, au CCFD, aux entraides des paroisses, des églises, qui ont souvent des services d'entraide, comme ici à Nîmes, qui sont extrêmement importants.
On pense à l'APA.
On pense à l'APA,
oui,
bien sûr. Et ces actions au service concret du prochain sont fondamentales, d'autant que derrière les sollicitations matérielles se cachent aussi souvent des blessures psychiques, des besoins affectifs, des quêtes spirituelles, des attentes de reconnaissance, où chacune et chacun aspire à être reconnu, accueilli tel qu'il est, et non parfois tel qu'on voudrait qu'il soit. Hein. En particulier, je pense à cette montée des peurs qui aujourd'hui font le lit des extrémismes racistes et xénophobes. Je pense que les religions peuvent offrir au cœur de la cité des lieux ouverts à tous, pour des relations de proximité où les questions et les inquiétudes de chacun peuvent être nommées et partagées. Et déjà, pouvoir nommer et partager dans la liberté et la confiance, ça fait tomber la peur, ça fait tomber la méfiance.
Alors, concrètement et paradoxalement, on va dire, par rapport à ce qu'on entend souvent dans les médias, vous pensez que les religions peuvent encore relier les hommes, les femmes, au lieu de les diviser ?
Bien entendu, ce serait d'ailleurs une fidélité à leur étymologie, relier les hommes entre eux. Je crois que dans la société où beaucoup vivent l'exclusion et la désaffiliation, je pense même que les religions pourraient ou devraient être des communautés d'apprentissage, où l'on apprend à vivre avec les autres, c'est-à-dire à respecter l'autre dans sa singularité, tout en gardant le souci de la visée commune. Cela passe bien sûr par tout un travail pédagogique auprès des jeunes, dans les réseaux de catéchèse, des religions, mais aussi un travail de sensibilisation et de formation auprès des fidèles, auprès de tous les fidèles. Ce souci de formation, d'éducation, de débat, d'apprentissage de l'esprit critique requiert de la part des religions de puiser dans leurs ressources propres, dans les ressources dont elles sont porteuses, de quoi lutter contre toutes les formes d'intolérance, de fanatisme, de violence et d'exclusion.
À condition de ne pas instrumentaliser les textes dits sacrés et accepter d'apprendre à les lire, les commenter, les interpréter, c'est-à-dire à faire de la théologie. Encore faut-il savoir quelle théologie. C'est peut-être là le bas qui blesse.
Effectivement, vous conduisez là à la troisième tâche des religions, qu'on pourrait considérer comme une tâche interne, mais qui va avoir des répercussions sur l'ensemble de la société. Le mot d'ordre de la faculté de théologie de Montpellier et de Paris, c'est « lire le monde et penser Dieu ». C'est ça la théologie. C'est pas justifier des pratiques confessionnelles, justifier des rituels ou autres. Non, c'est forcer, voilà, d'interpréter le monde à la lumière d'une autre parole. Ce qui implique de penser ce que l'on croit, de mettre de la théologie au cœur de la culture, en dialogue avec elle et les savoirs contemporains, en acceptant bien sûr le défi de l'interpellation réciproque. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'interroger toujours les savoirs contemporains ou de les critiquer, mais accepter d'être dit soi-même, interrogé et mis en question par l'apport de tous ces savoirs. Articuler ainsi l'acte de croire et de comprendre permet, je crois, d'endiguer au sein des religions, mais du coup aussi au sein de la société, les poussées d'émotionnels et d'irrationnels qui, eux, sont facteurs d'intolérance. Il s'agit pour les religions de résister à ce qu'Olivier Roy avait appelé la sainte ignorance. C'est-à-dire mettre en œuvre une approche critique du fait religieux, du fait religieux en général, mais aussi de leur propre système de conviction, chacune pour leur part, de leur formulation doctrinale, de leur lecture des textes fondateurs, comme vous l'avez dit dans une précédente émission, les interpréter, y compris pour le chrétien, le texte de la Bible. Une approche critique de leurs rites, de leurs pratiques communautaires, de l'exercice de l'autorité et du pouvoir en leur sein. On sait combien c'est important pour résister aux phénomènes d'emprise et de harcèlement qui peuvent
tout un travail,
exister.
Tout un travail.
Oui, il y a tout un travail à mener. Et il serait significatif d'ailleurs que les religions le fassent, bien sûr chacune pour leur part, mais le fassent aussi ensemble. Et ce pourrait être là une des activités, une des vocations dans le cadre des dialogues interreligieux. D'abord en vue d'une découverte mutuelle, parce que c'est en se connaissant mieux qu'on déconstruit les peurs, qui s'enracinent souvent dans l'ignorance de l'autre. On se souvient que c'était le projet de Régis Debray qui préconisait l'enseignement du fait religieux dans l'école publique pour que les enfants ne vivent pas sur des lieux communs, sur des fausses idées.
Se reconnaissent,
voilà. En vérité, c'est-à-dire pour ce qu'ils sont vraiment et pas pour ce que les parents ou d'autres leur disent. Mais ces dialogues interreligieux peuvent aussi permettre aux religions une relecture commune de leur mémoire, de leurs histoires, afin d'y débusquer les germes d'intolérance et de violence, et ainsi conjurer les risques propres souvent aux religions de dérives fondamentalistes, fanatiques ou sectaires. Et balayer devant sa porte, je l'ai déjà dit, et même à l'intérieur de nos maisons, contribuerait à lever la méfiance à l'égard des religions et à rendre crédibles leurs témoignages.
Il y a du boulot quand même.
Oui. C'est ce que nous allons essayer de faire à la CAP.
Oui. On pourrait se demander où en sont les dialogues interreligieux aujourd'hui. En France, par exemple, judaïsme, islam, christianisme, catholique, orthodoxe, protestant. Difficile certainement d'avoir devant l'étendue des problèmes politiques qui créent autant de malentendus ou même de dissensions. Peut-être faut-il revenir sur le minimum commun d'un vivre ensemble.
Oui. De vivre ensemble et ce que chacun ensemble ou séparément peut apporter au niveau de ce que j'appellerais maintenant, dans la quatrième et dernière contribution, la dimension spirituelle. Qui est au fond la contribution peut-être la plus spécifique, que personne ne peut apporter à la place des religions, et qui éclaire finalement toutes les précédentes. Témoigner de la dimension spirituelle de l'humain. La spiritualité, c'est étymologiquement le travail de l'esprit, c'est-à-dire ce qui littéralement donne du souffle et du sens, ce qui permet à chacun de penser son existence, de comprendre et éventuellement transformer son rapport aux autres et au monde. La spiritualité atteste en quelque sorte que la vie humaine ne consiste pas seulement à s'adapter ou à se conformer ou à se résigner à la réalité telle qu'elle est. La spiritualité, on pourrait dire que c'est cette capacité de dépassement qui brise les enfermements, qui brise même les confinements, qui résiste aux fatalités, qui suscite d'autres possibles et qui ouvre l'individu aux autres, éventuellement dans la foi à un autre, et en tout cas à de l'autre dans sa vie, de l'autre toujours à venir.
On se retrouve pour poursuivre après une pause. Si je comprends bien, j'essaye de prolonger ce que vous dites. On pourrait à la limite se passer de l'institution religieuse, c'est-à-dire ce qui donne un cadre, qui met ensemble des hommes et des croyants, mais on ne pourrait pas se passer spiritualité. On se retrouve après une pause. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. But do they all come from? Yeah. All the lonely people now, where do they all belong? Ah, look at all those lonely people. Ah, look at all those lonely people now. Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people. Where do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people. Church and was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said, all the lonely people. Do they all come from? The man looked at me and he said, all the somebody to tell me all the lonely people. Do they all belong? Théologie en liberté. Je suis avec le pasteur et professeur de théologie Michel Bertrand et nous parlons de la relation entre le religieux et le politique. Nous avons cherché différents apports possibles du religieux au monde politique. Le religieux a quelque chose à dire dans la recherche de sens. Si la spiritualité, c'est ce qui donne du souffle, du sens, c'est peut-être vécu, certains le vivent, hors du cadre religieux.
Bien sûr, ainsi comprise, on peut considérer que la spiritualité est une dimension constitutive de l'humain que même des agnostiques aujourd'hui revendiquent. Je pense à Comte Sponville, je pense aussi à Hartmut Rosa, que j'ai déjà cité, qui considère que la spiritualité, c'est l'écoute d'une altérité susceptible de donner du souffle à une vie et une société essoufflée. Rappelle que l'étymologie de esprit, c'est le souffle.
Oui.
Et esprit, c'est l'étymologie de spiritualité. Certes, cette dimension n'est pas forcément prise en charge par tout être humain. Elle peut être réduite à fort peu de choses, voire aliénée, et l'homme avec elle. Mais elle existe pourtant toujours, même réduite ou refoulée. On peut d'ailleurs se demander si ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés sécularisées. On peut alors consonner avec le philosophe soufiste Abdennour Bidar quand il considère que l'absence de spirituel est le problème de nos sociétés et que notre crise majeure est d'abord une crise spirituelle. « Je ne pense pas, écrit-il, que l'on puisse, dans une existence humaine, personnelle ou collective, faire l'économie du spirituel. »
Donc, ne pas intégrer la dimension spirituelle à notre quête d'un vivre ensemble, c'est aller tout droit à une impasse.
Oui.
C'est peut-être ce qu'a voulu nous laisser Michel Rocard dans un texte qu'il a écrit en pensant à ses obsèques. Donc, Michel Rocard, homme politique protestant, est décédé en 2016. Et Michel Rocard avait laissé ce texte. « J'aurais largement vécu le siècle de la honte, la boucherie de 14-18, la Shoah, le goulag, les génocides du Cambodge, du Rwanda, de la Bosnie. La référence première à la raison n'a pas produit d'éthique. Même les socialistes, dont pourtant l'espoir découle d'une morale, n'ont pas su produire un code respecté de référence collective. Je ne crois plus à aucune transcendance et suis devenu agnostique. Mais je constate que l'humanité n'a pas su trouver en elle-même les sources d'une morale de vie. Empiriquement, cela ne se transmet qu'avec l'acceptation du mystère et l'évocation d'un ailleurs. Certaines religions font encore cela mieux que la raison. Toutes ont erré et péché, comme elles disent. Celle qui m'a accueilli, le protestantisme, m'est souvent apparue comme l'une des moins coupables dans l'asservissement des hommes, et notamment, critère majeur, des femmes. C'est cela qui me paraît nécessaire de rappeler. » Fin de citation.
Oui, un très beau texte. On ne saurait mieux dire que la spiritualité, c'est ce souffle d'altérité. Il parle d'un ailleurs, il parle de mystère. Bien entendu, c'est difficile de le penser quand il n'y a pas de référence à une transcendance.
Voilà, donc, justement.
Une spiritualité sans transcendance, les agnostiques le disent d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile. Mais on peut être agnostique et athée et être ouvert à de l'altérité, c'est-à-dire à de l'autre possible. Parce qu'au fond, la crise de la spiritualité, c'est une maladie de l'espérance. C'est-à-dire qu'on n'attend plus rien. Hein. Et je me demande si ce n'est pas notre situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de cet effacement de la spiritualité que l'on constate dans notre société ces réactions de peur, d'isolement, de repli sur soi, de ressentiment, de colère, de détresse psychologique. 4 Français sur 10, paraît-il, disent les sondages, face aux difficultés et aux crises que nous traversons. Car l'effacement de la spiritualité pourrait bien signifier l'affaissement de notre capacité de résistance et de résilience face à l'adversité.
Parce qu'on ne pourrait pas se passer de spiritualité. On assiste aujourd'hui à un émiettement des spiritualités. Chacun se fabrique sa propre spiritualité en prenant ce qui lui plaît comme dans un supermarché. Est-il encore possible de faire lien avec ça? Ou bien est-ce que la religion est essentielle pour canaliser la spiritualité individuelle et donner corps social à ses convictions?
Et ce que vous dites, c'est encore un nouvel aspect. Hein. On pourrait même avancer que plus les régulateurs religieux traditionnels sont en recul, plus le religieux investit obscurément la société. Et c'est en tout cas la thèse de Régis Debray. Je cite un extrait d'un de ses livres, Les communions humaines, où il dit ceci: « Secte, spiritisme, astrologie, paranormal et voyance, la croyance à l'état sauvage s'en donne à cœur joie lorsque se défait l'institution qui l'a domestiquée. » Mais en tout cas, il est légitime de... On peut se demander si une société peut se passer durablement de spiritualité, c'est-à-dire cette dimension structurante de l'humain, cette force intérieure qui permet de tenir debout quand tout vacille à l'extérieur. Et on voit bien ici la portée politique du spirituel comme capacité de résistance, mais aussi la dimension spirituelle du politique, c'est-à-dire que l'absence de spiritualité, je le disais tout à l'heure, est en fait une maladie de l'espérance pour une société ou des individus qui n'attendrait plus rien. Or, les religions, sauf à passer à côté de leur vocation, ont bien pour mission essentielle d'être les témoins d'une espérance contagieuse.
Alors, nous avons vu jusqu'ici, donc, le rapport souvent difficile entre religieux et politique, la place du religieux dans la société, son apport possible. Quelle conclusion pour tout cela ?
Alors, pour
ces conclure, nos quatre émissions.
Oui. Pour conclure et résumer brièvement ce propos qui s'est étalé en effet sur plusieurs émissions, je dirais que le lien entre religion et politique est inévitable. Complexe, difficile, dangereux parfois. C'est pourquoi il est sujet à des réajustements permanents. La religion a inévitablement une dimension politique que le politique ne saurait méconnaître. Ainsi, religion et politique ne doivent jamais être ni confondus ni totalement séparés. Il faut les distinguer et sans cesse les articuler, les réarticuler, de sorte que chacun remplisse son rôle dans un respect mutuel. La laïcité moderne, je l'ai dit, me paraît être un cadre nécessaire et fécond pour cela. Et à ce cadre-là, les chrétiens, en tout cas pour leur part, peuvent souscrire. Dans ce cadre, ce dispositif, les religions contribuent à la vitalité de l'espace public, à la vie sociale, mais sans jamais prétendre dominer la société, ni se substituer aux politiques. Et dans cette démarche, elle pourrait avoir en quelque sorte pour viatique, hein, pour les accompagner, pour nourriture de marche, ces mots de Paul Ricoeur sur lesquels je termine. Si vraiment les religions doivent survivre, il leur faudra renoncer à toute espèce de pouvoir autre que celui d'une parole désarmée, et faire prévaloir la compassion sur la raideur doctrinale.
Michel Bertrand, merci.
Merci à vous.
Et à une autre fois pour un autre thème.
Volontiers.
Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, c'était Théologie en liberté. Nous nous retrouverons une prochaine fois sur un autre thème. En attendant, eh bien, je vous laisse à l'écoute de Radio Alliance Plus. À bientôt, au revoir.